On se dit tout sur France Bleu, Vanessa Lambert.
Je suis très heureuse de vous retrouver comme chaque soir sur France Bleu pour votre émission de confidence, l'émission où on prend le temps vraiment de se parler. On choisit un sujet pour vous, il vous concerne et vous appelez et on en parle. Le sujet de ce soir, l'école, puisque dans un mois et demi l'école sera terminée. Alors si pour certains enfants la fin de l'école est quelque chose de triste hein, parce qu'on quitte les copains, pour d'autres ce sera cette année encore un véritable soulagement et on va justement parler des autres ce soir, les enfants qui n'aiment pas l'école, pour qui c'est compliqué, pour qui c'est douloureux, boule au ventre, crise d'angoisse, on appelle ça la phobie scolaire, mais sans aller jusque-là, on peut aussi parler d'ennui, de décrochage scolaire, de rébellion, de harcèlement, d'enfants pas toujours très sympas entre eux, quand on travaille trop bien aussi, on est taxé d'intello, quand on n'est pas doué en sport, on s'attire les railleries, quand on n'a pas la même culture, les mêmes habitudes, le même look que tout le monde. 0810 055 056, c'est le numéro dont se dit tout. Et on en parle avec vous qui avez connu ça quand vous étiez plus jeune ou alors vous le vivez en ce moment même avec vos enfants. On en parle ce soir avec la journaliste Maria Poblet, auteure du guide Psycho pour une scolarité réussie aux éditions de L'Étudiant. Bonsoir Maria.
Bonsoir.
La scolarité dans votre livre n'est plus vue seulement par les programmes et par les règles, mais on prend vraiment l'angle psychologique. C'est important aussi de se dire qu'il se passe des choses dans la tête et dans le quotidien des enfants.
Oui, parce que pour bien travailler, pour bien apprendre et pour être heureux, j'aurais pu appeler ce guide le guide de la réussite et de la réussite heureuse, de la scolarité heureuse. C'est très important pour réussir à l'école, pour obtenir de bons résultats ou des résultats. Il faut vraiment savoir ce qui se passe dans la tête des enfants, dans la tête des adolescents, pour pouvoir les accompagner au mieux. C'est vraiment indispensable.
Et souvent, c'est trop tard qu'on le découvre. On attend vraiment la rupture, les difficultés.
Alors,
parce qu'on n'en parle pas assez à l'école.
On n'en parle pas assez, c'est vrai, on en parle peu, mais je dis qu'il n'est jamais trop tard. On peut toujours, les enfants et les ados nous étonnent énormément. Ils peuvent aller mal, aller très bien, très vite et partir dans un sens très positif aussi. Donc je pense que moi, mon message, c'est vraiment, c'est jamais trop tard de toute façon.
Mais on a l'impression quand même que ça fait un peu partie du jeu, un peu partie du package, la scolarité. Un peu compliqué avec les railleries, je disais les moqueries, avec la difficulté. Sauf que ça doit pas être ça le quotidien des enfants.
Non, c'est pas ça, mais c'est on n'a jamais dit que la vie d'un enfant était facile. De toute façon, effectivement, c'est pas toujours facile et on n'est pas toujours dans des conditions optimales pour étudier. Les enfants entre eux et de plus en plus, je pense, sont très durs, quoi. C'est vraiment très dur.
Vous n'aimez pas l'école. Si vous êtes ado et que vous nous écoutez, vous pouvez appeler. Votre enfant n'aime pas l'école ou alors c'était vous, plus jeune, hein, qui avez détesté aller à l'école. Venez nous raconter votre histoire, vos histoires, comme chaque soir sur France Bleu. C'est vous qui avez la parole.
Racontez-nous votre histoire. Ce soir, on se dit tout sur France Bleu avec Vanessa Lambert.
Je n'aime pas l'école, c'est le sujet dont se dit tout ce soir sur France Bleu et on peut ne pas aimer l'école pour des milliers de raisons, parce qu'un jour un prof vous a dit que vous aviez une écriture de cochon, parce que vous êtes dyslexique entre autres et que l'apprentissage est forcément plus compliqué, parce qu'on vous traite d'intello à tout bout de champ, parce que vous n'avez pas d'amis, parce que vous êtes nul en sport, parce qu'on se moque de votre look par exemple, mais on peut aussi parler de phobie scolaire, de décrochage, d'ennui, d'école qui n'est pas forcément adaptée et de tous ces enfants qui souffrent alors qu'ils sont là pour normalement apprendre, pour rire, pour jouer, pour évoluer. 0810 055 056 si vous avez connu ça ou si un de vos enfants le vit en ce moment, venez nous rejoindre pour nous raconter votre histoire sur France Bleu avec Maria Poblet qui est avec nous, auteure du guide Psycho pour une scolarité réussie aux éditions de L'Étudiant. Et c'est Guy qui est avec nous depuis la Normandie pour démarrer cette émission. Bonsoir Guy.
Bonsoir, oui. Alors j'appelle Dorbeck. Donc je suis allé à l'école pendant 4 ans, de 1957 à 61, à l'école Guillaume le Conquérant de Trouville-sur-Mer. Voilà. Je brosse le tableau. C'est le cas de le dire.
Est-ce que c'est un bon souvenir ou un mauvais souvenir?
Non, je ne garde pas un excellent souvenir, parce que les instituteurs, j'en ai eu 3 à cette école-là, je n'ai pas un plein de ces gens, de ces personnes-là. Hein. C'était des gens assez bienveillants envers moi. Hein. Par contre, les élèves, hein, ça n'allait pas du tout. Hein. Ils ne m'aimaient pas spécialement, même pas du tout. Hein. Parce que bon, j'avais, disons, une tare. c'est que à l'époque, j'avais les dents avancées, donc dans le fuck, dans le castor, enfin des trucs très agréables.
Des moqueries.
Hein. Oui. Et donc, et c'est ce qu'ils m'ont dit mes instituteurs, mais ils étaient un bon, disons, au commencement, tu étais un bon élève, mais ça s'est dégradé forcément avec l'ambiance qu'il y avait avec toi, avec tes camarades. Et ben, c'était quand même catastrophique. Hein. Bon. Bon, toute façon, bon, c'était quand même assez spécial aussi à l'époque. Hein, bon.
C'est une autre époque aussi. Hein, il faut remettre dans le contexte, oui. mais quand même, j'aimerais qu'on revienne, Maria, sur ce que dit Guy, c'est-à-dire qu'on peut, à un moment donné, avoir un enfant qui est un bon élève et qui d'un seul coup va se retrouver moyen, voire même carrément en échec scolaire, sans qu'on comprenne vraiment parce qu'on n'est pas à l'école, on voit pas ce qui s'y passe.
Oui, effectivement, les parents ne sont pas à l'école et il y a bien sûr des réunions régulières parents-prof, mais pas suffisantes, elles sont vraiment absolument pas suffisantes. Et les enfants ne parlent pas de ce qui se passe à l'école. On voit bien, hein, qu'est-ce que tu as fait à l'école aujourd'hui ? Bah rien. J'aime pas l'école ou rien. Donc la question, c'est de pouvoir essayer de savoir un petit peu, en voyant peut-être les enseignants, comment ça se passe. Là, visiblement, Guy, vous, ça se passait pas bien et puis on vous a laissé un peu de côté, être un peu harcelé par vos camarades de classe. Donc dans ces cas-là, effectivement, aujourd'hui, je pense que ça serait peut-être pas possible, hein, en fait.
Ah, il y a plus de moqueries, il y en a quand même
toujours. Il y en a,
ils sont cruels, les enfants.
Oui, bien sûr, ils restent cruels, mais pas au point. Enfin, on met en place des choses quand même pour aller aussi loin, en fait. Hein, quand même.
Guy a utilisé le mot bienveillance. Il n'y avait pas forcément de bienveillance avec lui. C'est un mot auquel on fait attention aujourd'hui à l'école.
J'espère. La bienveillance, c'est quand même c'est indispensable. C'est hyper important et c'est parce que on s'occupe, on nous écoute, on nous entend en tant qu'élèves et parents aussi qu'on peut apprendre. La bienveillance, c'est essentiel. Mais effectivement, je ne suis pas sûre que ce soit à 100% non plus.
Il y a des profs formidables qui donnent le goût de l'école. Même c'est compliqué aussi peut-être dans le rythme de l'école d'aujourd'hui. Alors j'espère qu'on va parler aussi beaucoup de l'école d'aujourd'hui parce que l'école d'hier, ça a quand même pas mal changé. Et puis on parle beaucoup des enfants d'aujourd'hui, de vos enfants ou vos petits-enfants hein, qui n'aiment pas l'école. Mais est-ce que, alors c'est un grand débat, mais est-ce que l'école d'aujourd'hui est vraiment adaptée aux enfants d'aujourd'hui? On a un peu gardé quand même des vieilles méthodes.
On a gardé des vieilles méthodes. L'école s'adapte et l'école se réforme régulièrement et heureusement. Mais en effet, les réformes, elles sont peut-être pas, elles sont très très lentes. Donc c'est un autre temps. Le temps de la réforme est vraiment très très long. Du coup, pour ceux qui ne suivent pas, ils restent à la traîne. Et effectivement, je pense qu'il y a des réformes à faire à l'école et elles sont indispensables. Mais c'est pas en claquant des doigts, quoi.
Merci Guy de nous avoir appelé et d'avoir été le premier dans cette émission. Alors là, on était vraiment sur l'école d'avant. On va essayer de se recentrer sur l'école d'aujourd'hui. D'ici, allez, il y a quoi, 10-20 ans maxi, hein, parce que sinon on va être un petit peu en décalage avec ce qui se fait aujourd'hui. Vous n'aimez pas l'école, vous n'aimiez pas l'école, ou alors c'est votre enfant, votre petit-fils ou votre petite-fille qui est en décrochage scolaire, qui n'a pas envie d'aller à l'école, qui n'aime pas ça, pour qui c'est même carrément l'angoisse. On peut parler aussi des addictions des jeunes aujourd'hui, l'alcool, la drogue à l'école. Comment on fait pour en parler? Comment on fait pour s'en sortir et les aider surtout? 0810 055 056 pour apporter votre témoignage jusqu'à 22h sur France Bleu.
Vos témoignages, vos expériences. Ce soir, on se dit tout sur France Bleu avec Vanessa Lambert.
Chaque année, en France, 150 000 jeunes quittent le système scolaire sans aucune formation. Pourquoi un tel décrochage? Comment sont-ils arrivés là à être dégoûtés de l'école? Ce soir, on se dit tout sur l'école qui fait peur, qui tétanise, qui fait mal. Votre enfant a décroché, il n'a jamais aimé l'école, il en a été dégoûté très vite. Venez nous raconter son histoire, à moins que ce soit votre histoire, et de toute façon ça touche toute la famille. 0810 055 056, c'est le numéro d'On se dit tout. On attend vos confidences avec la journaliste Maria Poblet, auteure du guide Psycho pour une scolarité réussie, aux éditions de L'Étudiant. Et Anne-Cécile est avec nous depuis la région parisienne. Bonsoir Anne-Cécile.
Bonsoir.
C'était il n'y a pas si longtemps que ça pour vous, il y a 10 ans à peu près?
Oui, c'est ça. Il y a 10 ans, je quittais le collège pour partir au lycée. Mais du coup, de la primaire jusqu'au collège, jusqu'en troisième, je subissais les moqueries, la mise à l'écart parce que j'étais grosse, donc c'était toujours des réflexions sur mon poids, sur ma taille, sur mes vêtements qui parfois étaient peut-être un peu trop serré, donc j'avais le droit aux insultes, le saucisson, la baleine, la grosse vache.
Et ça a influé sur votre rapport à l'école, forcément?
Ah oui.
L'école égale moquerie, égale souffrance?
Ah, énormément, oui. Et puis même, du coup, à l'extérieur, j'avais personne, j'avais pas d'amis non plus, puisque, en fait, j'étais que la bouche-trousse, et on était là quand les autres copains étaient pas là, et puis ou quand j'avais peut-être des fois un peu de bonbons ou des trucs sympas, mais dès qu'il y avait plus d'intérêt, on me laissait, et puis je me retrouvais toute seule, quoi.
Est-ce que vous avez pris goût quand même à certains cours, Anne-Cécile? Est-ce qu'il y avait du plaisir dans l'enseignement ou c'était un tout qui vous a dégoûté complètement de l'école?
Non, j'ai pris goût à certains cours, en fait, à l'anglais et à l'espagnol.
Les langues, ouais, bien.
Voilà, les langues, parce que l'anglais, parce que déjà j'ai eu une professeure absolument extraordinaire, et même juste ça jusqu'à la fin du lycée, j'ai eu que des super profs vraiment géniaux. Malheureusement, je me souviens pas forcément de tous leurs noms, et ça, je leur remercie tous. En espagnol, en fait, j'avais la même prof que mon grand frère, et du coup, elle attendait beaucoup de moi et savait me pousser pour que que je fasse les bons apprentissages et que j'ai les bonnes notes. Donc, ça s'était très bien passé à ce niveau-là, mais tout le reste, par contre,
Et ça s'est ressenti sur vos notes, sur votre scolarité en général?
Plus t'en avançais, moins j'avais de bonnes notes.
Ouais. Là, on est dans quoi, Maria? On est dans le harcèlement, clairement.
J'ai l'impression que ça frise un peu le harcèlement, quand même. Et vous êtes jamais... justement, vous aviez des bonnes relations avec ces professeurs, vous ne leur avez pas parlé?
Non, je n'osais pas forcément en parler aux profs. Après, je sais qu'on avait notre infirmière scolaire. Avec elle, j'avais pu en parler. Malheureusement, l'infirmière, à part faire des rappels sur tout ça, sur les insultes, sur le harcèlement, tout ça, elle pouvait pas faire grand-chose de plus. Donc, je prenais sur moi. Et puis un jour, par contre, il y a eu quelque chose de super dur pour moi. Mais en fait, déjà, je refusais de faire du sport à cause de toutes deux, à cause de tout ce qu'ils pouvaient me dire. Mais à un moment donné, il y avait du basket. Et le basket, j'en faisais étant petite et j'adorais ça. Donc j'en ai fait. Malheureusement, premier cours, paf, je me tords la cheville. Et le lendemain, j'arrive avec les béquilles. Et il avait plus. Et devant le petit groupe de ceux qui ont les scooters, les trucs comme ça, disons, on va dire les beaux gosses et les bimbos de la classe, ma béquille glisse et je me rétame complètement dans la boue. Et là, j'en ai eu pour 2 semaines de moquerie rien que sur ça, quoi.
Ouais, donc c'était compliqué en fait d'aller à l'école et de pouvoir apprendre quand on est quand on se sent mal entouré, quoi.
Ça peut venir de là parfois, le décrochage scolaire. C'est pas forcément un élève qui a pas les compétences, c'est parce que l'entourage, l'environnement fait qu'on n'a pas envie.
Moi je suis persuadée de ça. Je suis persuadée que le décrochage scolaire est toujours lié à une relation compliquée, conflictuelle avec un adulte ou avec les pairs, avec les d'autres élèves. Je pense que on décroche parce que on ne se sent pas bien. Le décrochage, ça veut dire qu'on arrête et qu'on s'épuise et qu'on a envie d'abandonner et qu'on quitte.
C'est l'alerte que doivent avoir les parents. Un enfant qui est relativement bon, qui a un parcours classique, si à un moment donné il y a un décrochage, il faut se dire attention, c'est pas que scolaire.
Bien sûr, c'est pas que scolaire. De toute façon, et c'est poser des questions mais pas face à face. Moi, je dis toujours qu'avec les jeunes gens, c'est bien de, par exemple, en voiture, quand on est côte à côte, on se parle beaucoup plus facilement quand on est côte à côte. En marchant, côte à côte, on a beaucoup plus de mots qui viennent et on arrive à savoir, à trouver enfin les raisons, parce que les décrocheurs, c'est pas, on décroche pas comme ça, quoi.
Vous en êtes où, Anne-Cécile, aujourd'hui, 10 ans après?
J'ai eu l'occasion de faire des formations qualifiantes avec la région Bretagne.
Ouais.
Qui m'ont permis de découvrir le travail, l'aide à la personne. Et aujourd'hui, bah, je garde deux petits garçons, dont le plus grand qui est précoce. Et qui du coup subit les moqueries dans sa classe, parce qu'il a sauté une classe. Et du coup, et en plus, il est plus petit que son âge, donc il a 6 ans, il est en CE1. Et au niveau du sport, par exemple, il peut pas suivre la cadence par rapport aux autres. Donc il y a pas mal de moqueries par rapport à ça. Et en plus, il est toujours un petit peu dans la lune, parce que il aime beaucoup s'inventer des mondes, des histoires avec des dragons, des robots, des trucs comme ça. Et du coup, les autres se moquent de lui parce que il réagit pas forcément quand on lui parle ou des trucs comme ça, quoi.
On va en parler, je pense, aussi des enfants précoces, des enfants surdoués, des intellos, sans forcément, comme on les appelle à l'école, ah, mais lui, c'est un intello. Ils sont souvent mis de côté aussi, c'est ça qui est terrible. C'est-à-dire que aujourd'hui, finalement, les enfants ont plein de raisons d'être en échec scolaire à cause des autres. On dit, ton physique ne me plaît pas, ta façon de t'habiller ne me plaît pas, t'es trop intelligente, t'es trop nulle. On a l'impression que, quoi qu'il arrive, il y a toujours quelque chose qui ne va pas.
Les enfants sont très conservateurs. La différence fait peur. Donc un enfant en situation qui est surdoué, qui va répondre du tac au tac, qui va avoir justement un monde intérieur très riche, qui va être en avance, qui va être plus petit que les autres, qui va être différent, ça gêne aussi, ça gêne les autres. Effectivement, la différence, elle est c'est malheureux, quoi. Ça fait vraiment du mal.
Merci Anne-Cécile de nous avoir appelé ce soir avec cette double histoire, la vôtre et puis celle de ce petit garçon dont vous vous occupez. On parle ce soir de l'école, l'école compliquée, je n'aime pas l'école, c'est comme ça qu'on a appelé cette émission. Si ça a été votre histoire il y a quelques années, pas trop loin dans le temps non plus pour qu'on puisse se raccrocher à ce qui se fait et ce qui se dit aujourd'hui. Et puis on va parler aussi de vos enfants ce soir, vos enfants qui peut-être sont en échec scolaire, qui s'ennuient à l'école, qui vous disent sans arrêt, papa, maman, j'aime pas l'école, je veux pas y aller. Pourquoi ils n'aiment pas l'école, votre enfant ou votre petit-fils, votre petite-fille? Est-ce que vous avez réussi à comprendre pourquoi? Venez nous raconter votre histoire ce soir sur France Bleu au 0810 055 056.
Le soir sur France Bleu, on se dit tout avec Vanessa Lambert.
Votre enfant n'aime pas l'école, ses profs sont soi-disant nuls, les maths ça sert à rien, il est lent, ça fatigue tout le monde, il s'ennuie. De la maternelle au lycée en passant par le collège, c'est pas toujours un long fleuve tranquille. Et pour certains, ça va même encore plus loin, avec des crises d'angoisse, des maux de tête, des difficultés d'apprentissage, ou au contraire, de par son avance, il s'ennuie et a complètement décroché. Est-ce qu'on peut forcer un enfant à aller à l'école lorsque celle-ci le fait souffrir? Comment on sort de cette souffrance? J'aime pas l'école pour plein de raisons. C'est le sujet qu'on a choisi pour vous ce soir sur France Bleu avec vos témoignages au 0810 055 056 en compagnie de Maria Poblette qui est notre grand témoin, journaliste au magazine L'Étudiant et auteur du livre Le Guide Psycho pour une scolarité réussie aux éditions de L'Étudiant. Et Gérard est avec nous depuis Paris. Bonsoir Gérard.
Bonsoir.
Vous n'aimiez pas l'école au collège, mais...
Non, pas du tout. Moi, j'étais timide. Les professeurs, je ne discutais pas avec eux. J'étais vraiment en dehors des cours. Et je me suis retrouvé, je me traînais dans les derniers, quoi.
Vous y alliez un peu par obligation.
Un peu, oui. Enfin, je m'ennuyais, je rêvais, je regardais à la fenêtre quand le professeur de maths y parlait ou quand le professeur de français il m'expliquait des choses que je comprenais pas. Bon, c'était ça. Et puis, il a fallu que je change de direction. Donc, ils m'ont envoyé dans un lycée technique à l'école Estienne, à Paris, du côté de la place d'Italie. Et là, j'ai eu un professeur de français qui m'a complètement explosé.
C'est bien ça.
Un professeur de français, il racontait des histoires, il discutait de l'histoire de l'art.
Et là, vous êtes dit, oh tiens, c'est pas comme avant.
Ben voilà, c'était une façon plus moderne. Ça me fait penser un peu les poètes disparus, vous savez.
Ah oui, le cercle des poètes disparus, oui.
Oui, le cercle. Voilà, c'était un peu ce prof-là, quoi.
Il n'y en a pas beaucoup des comme ça, mais quand il y en a un, Maria Poblet, on l'oublie jamais, ce prof génial qui nous fait aimer, les cours, qui nous fait aimer l'école, finalement.
Oui, je pense qu'il y a vraiment cette idée d'alliance entre un enseignant et un élève, les enseignants et les élèves. Quand il y a une alliance qui est créée, là, comme Gérard, c'est vraiment une relation très forte qui vous a fait intéresser, Gérard, à la matière au français. C'est grâce à ces profs-là, on a tous des souvenirs de profs qui nous ont intéressés en fait à la matière et qui nous ont parlé, qui nous ont regardé, qui se sont intéressés à nous. Et je pense que c'est très important. Il y a eu des études qui ont été réalisées en sciences de l'éducation sur les relations, les rapports entre les professeurs et les élèves. Il y a encore quelques années, on disait que non, qu'il fallait un peu de distance, que chacun a sa place. Et en fait, non. Il faut de l'affect. Et c'est quand il y a de l'affect que la matière passe et que la relation, elle se fait. On n'est pas là sur le copinage, le tutoiement, etc. C'est vraiment le respect mutuel et de l'affect. Oui, moi, j'ai interviewé des profs qui m'ont dit qu'ils aimaient leurs élèves. Ils aimaient leurs élèves.
Pardon, excusez-moi. J'ai avalé trop d'air d'un seul coup. C'est ça aussi le direct. J'aimerais qu'on revienne aussi sur l'orientation, parce que Gérard dit, on m'a mis dans un lycée technique. Là, on a l'impression que c'était un peu genre le dernier recours. Il y a peut-être des parents qui nous écoutent et qui se disent, oh là là, mais moi, jamais mon fils ou ma fille n'ira en lycée technique ou en lycée professionnel. C'est pas une tare, bien au contraire.
C'est pas une tare. Tout le monde, tous les jeunes ne sont pas destinés à bac plus 8, 15, 25. Ouais. On peut très bien, très tôt, très vite apprendre un métier et on peut réussir et on réussit dans le lycée professionnel. Dans les lycées professionnels, il y a 19 élèves par classe. Mais c'est magnifique. Moi, tous les lycées professionnels que j'ai visités, les maisons familiales rurales où c'est de l'enseignement en alternance, c'est le bonheur. Mais c'est le bonheur d'apprendre.
C'est-à-dire que quand un enfant déjà vers 11-12 ans, elle est à l'entrée au collège, déjà nous dit, j'ai envie de travailler, j'ai envie d'apprendre un métier. Il faut pas prendre ça à la légère.
Ah non,
il faut commencer pas... déjà l'orientation.
Non, bien sûr, il faut commencer à réfléchir. Alors, qu'est-ce que tu aimes faire? Dans quoi tu es qu'est-ce que tu aimes manipuler? Est-ce que tu aimes plutôt le bois, plutôt le cuir, plutôt les voitures, je sais pas, la mécanique. C'est on peut commencer à avoir une petite idée de ce que un enfant aimerait faire plus tard. Et bon, évidemment, on arrive tous le collège unique. Hein, on y est encore, hein, le collège unique. Donc, on termine le collège, hein, on passe le brevet. Mais après, on a des tas de possibilités.
Peut-être que vous n'aimiez pas l'école, mais qu'avec ce changement d'orientation, ça a justement changé beaucoup de choses. On en parle ce soir comme Gérard. Venez nous rejoindre comme Anne-Cécile, comme Guy également. Venez nous dire en quoi vous n'aimez pas l'école ou vous n'aimiez pas l'école. Si possible, pas trop loin dans le temps pour se rattacher vraiment à ce qui se fait aujourd'hui. Et puis, on va parler aussi beaucoup de vos enfants. Ce soir, peut-être que c'est votre fils, votre fille qui est en décrochage scolaire, qui vous dit « je n'aime pas l'école », qui a découvert peut-être des addictions comme la drogue et l'alcool. On va en parler aussi. C'est important d'en parler et de pouvoir en parler avec ses enfants. 0810 055 056 pour nous rejoindre jusqu'à 22h sur France Bleu.
Racontez-nous votre histoire. Ce soir, on se dit tout sur France Bleu avec Vanessa Lambert.
Une enquête révèle qu'environ un quart des élèves de primaire et du collège s'ennuient à l'école. Ils s'ennuient souvent, voire tout le temps, et ce taux monte à 71% chez les collégiens. On sait que l'école n'est pas faite pour être rigolote et divertissante, mais quand même, un élève qui s'ennuie peut devenir un élève qui décroche, voire un élève qui n'a plus plus envie d'apprendre. J'aime pas l'école, c'est le sujet dont se dit tout ce soir sur France Bleu. Pour quelles raisons vous avez dû revoir l'orientation scolaire de votre enfant? Pour quelles raisons vous avez quitté l'école si tôt? Comment on fait pour gérer ça quand on sait que l'école est obligatoire jusqu'à 16 ans et que dès l'entrée au collège, votre enfant vous dit qu'il n'aime pas l'école, qu'il veut arrêter l'école? 0810 055 056, on vous attend pour en parler ensemble sur France Bleu. Votre histoire à vous, celle de votre enfant, avec Maria Poblette, qui est auteure du livre Le Guide Psycho pour une scolarité réussie aux guides éditions de l'étudiant. Et nous allons partir maintenant en Lorraine, chez Maryse. Bonsoir Maryse.
Oui, bonsoir.
Vous, votre fils, il aimait pas ça à l'école. Hein. Le collège, c'était pas son truc.
C'est pas tellement qu'il aimait pas, mais il s'y sentait mal, il n'arrivait pas à suivre, il était perdu, il était malheureux. Et ça a été comme ça jusqu'en troisième. Et la dernière année en troisième, il était vraiment même dépressif à ne plus vouloir sortir, à pas vouloir avoir d'activité, rien du tout. Et puis en discutant, un jour, il m'a dit « Écoute maman, moi j'ai envie de travailler dans un restaurant ». Et moi, j'ai essayé un petit peu de l'en dissuader en disant que c'était quand même difficile et tout. Mais il m'a dit non, je veux faire ça et rien d'autre. Et puis finalement, il a fait un apprentissage où là, ça s'est passé. Alors, ça a été le jour et la nuit. Là, il est sorti avec des encouragements, avec des très bonnes notes, tout allait bien. Et puis, quand il a eu fini ses études de restauration... Il m'a dit, écoute maman, moi je veux rentrer dans la marine, dans l'armée. Mais je lui dis, dans l'armée, qu'est-ce que tu vas faire? Et puis finalement, il est rentré comme maître d'hôtel dans la marine. Ça fait maintenant 19 ans qu'il est dans la marine, qu'il a une très belle carrière, qu'il a voyagé dans le monde entier et a côtoyé même des... il reçoit quand il y a des réceptions à bord ou quand ils sont en mission avec des chefs d'État, des ministres.
Ah oui, quand même
comme ça. Et puis il est épanoui, heureux et tout va bien. Alors qu'on me disait au collège, on me disait toujours votre fils, on n'en fera jamais rien, il fera jamais rien. Qu'est-ce que vous voulez faire d'un gamin comme ça? Et donc je voulais témoigner pour dire que d'une part, il faut pas décourager les enfants et puis je trouve que c'est moche de la part d'école de dire ça à des enfants parce que ça les blesse énormément, les parents aussi, mais les enfants surtout. Et puis que finalement, on arrive toujours à s'en sortir et que je suis très fière de la carrière de mon fils.
C'est un beau témoignage de maman, ça, Maria.
Ouais, super, hein, vraiment. Vous l'avez écouté en fait. Je pense qu'il faut écouter les enfants.
Oui.
Il faut écouter les enfants quand ils nous disent qu'ils en ont marre de l'école, que ça ne leur plaît pas, que ça ne les intéresse pas. Il faut les écouter. Qu'est-ce qui te plaît? Et vous l'avez vraiment porté et soutenu. Hein. Ça n'a pas dû être facile parce que vous avez dû.
Qu'est-ce qui se passe dans la
résistance?
Qu'est-ce qui se passe justement dans la tête d'une maman, Maryse? On se dit, mais est-ce que je l'encourage? Mais est-ce que c'est bien pour lui? Normalement, entre guillemets, faut faire des études plus longues, générales. Voilà. Il y a tout ça dans la tête d'une maman, non?
Oui, je me faisais beaucoup de soucis en me disant, mais comment faire pour l'aider? Et puis je vous dis, j'étais pas trop d'accord qu'il aille dans la restauration parce qu'on sait que c'est des métiers difficiles avec pas d'horaire. Et puis il a tenu bon, il a fait un apprentissage où il est tombé aussi sur... On a eu la chance qu'il ait un maître d'apprentissage qui nous a beaucoup soutenus, qui l'a beaucoup aidé. Et puis après, il est rentré dans la marine et là, ça a été le bonheur avec, je vous dis, il a voyagé dans énormément de pays, il a vu,
et surtout il a trouvé sa voie, ça c'est important.
Oui.
Et puis il y a des enfants qui ont la bougeotte, qui ont besoin de, ils peuvent pas rester assis longtemps comme ça, écouter un professeur, faire un cours. C'était le cas de votre fils Maryse et c'est le cas de Jean-Marc qui est avec nous également depuis la Bourgogne. Bonsoir Jean-Marc.
Bonsoir.
C'est un peu vous le portrait que je viens de faire.
Oui.
Hein, c'est ça, vous n'aimiez pas rester assis pendant des heures à écouter les profs.
Pas du tout, non.
Ça a commencé à partir de quand, Jean-Marc? À partir de quand vous êtes dit, j'en ai marre de l'école?
On va dire CM2 avec un prof anti-gaucher.
Ah oui, là, les fameux gauchers contrariés.
Oui, ceux qu'on tape sur les doigts, quoi.
Ouais, ça, c'est vrai que c'était pas très très malin à l'époque. Hein.
Non.
Et en sixième, le collège, ça a été la suite après. Ça a été,
je suis pas si vieux que ça, on va dire. J'ai que 45 ans, mais bon, ouais.
Ah ouais, il y avait encore des méthodes comme ça. Waouh.
Ouais.
Et comment ça s'est passé, le collège, alors?
Le collège, disons que mes frères sont passés devant moi. Donc, un qui était... il apprenait ses sons jusqu'au point et à la virgule. Et puis le deuxième qui a foutu le bazar, on va dire.
Et vous, vous arrivez derrière, waouh.
Et je suis arrivé derrière. Du coup, moi, je portais des lunettes. Donc moi, jusqu'au CM2, on m'avait dit, t'as des lunettes, tu passes devant. Ça fait que quand je suis arrivé en sixième, je suis arrivé en cours, je suis passé devant. Et quand le prof a fait l'appel d'entrée, on va dire, dès le premier jour, on va dire, quand j'ai dit mon nom, il m'a dit derrière.
Ah, par rapport à vos frangins?
Par rapport au frère qui est juste tout de suite.
Qui était un petit peu... Oh là là. Alors ça, c'est vrai qu'on peut en parler aussi des frères et sœurs qui sont parfois des modèles ou qui ne le sont pas vis-à-vis des anciens professeurs. C'est aux parents d'en parler aux professeurs, de dire c'est bon, mon fils avant, ma fille avant était peut-être ceci, cela, mais prendre l'enfant dans sa personnalité, dans sa globalité, pas avec ses frères et sœurs.
Ah oui, moi je suis persuadée de ça. Je pense qu'il faut vraiment le dire, en parler très vite. Aux enseignants dès la rentrée, voilà, chaque enfant, et on voit bien dans une fratrie, on a des situations et des personnalités, des comportements qui n'ont rien à voir, complètement différents. On peut avoir un enfant super intellectuel, super travailleur, et puis un enfant qui n'aime pas du tout étudier et apprendre. Je pense que là, effectivement, on peut dire ça aux gens qui nous écoutent. C'est voilà, il arrive, cet enfant arrive en deuxième, troisième position dans la fratrie, mais
c'est
il
pas de
est
sa faute,
unique,
hein.
C'est pas de sa faute. Et même si on arrive après un très bon élève ou après un élève chahuteur, de toute façon, ça sera compliqué. On va comparer, on va... Donc, je pense que là, il faut vraiment faire super attention à ça.
Et vous avez dû aller jusqu'en troisième comme ça, Jean-Marc ?
Ah non, j'ai arrêté à la sixième.
Ah, vous avez arrêté, ouais.
Oui, j'ai arrêté.
Comme vous êtes parti sur quoi après?
Pré-apprentissage et apprentissage.
Bah voilà, mais c'est bien. Deux réussites en apprentissage, moi je dis bravo. Oh, comme le fils de Marie avant.
J'ai 5 CAP, on va dire. Donc,
génial. Vous aviez besoin de choses concrètes peut-être aussi.
Un peu, oui.
Ouais. Non, mais ça, c'est important de le comprendre aussi chez certains enfants. Quand on fait de la géométrie, quand on fait de la physique-chimie, encore la physique-chimie, ça peut être à peu près concret, mais bon, je donne l'exemple des maths, c'est peut-être pas un très bon exemple parce que je les aime pas et je vais me faire taper sur les doigts par les matheux, mais c'est pas concret pour certains enfants, les mathématiques.
Ah bah non, c'est pas du tout concret. L'orientation, se situer dans l'espace, quand on a un petit problème dyslexie, d'orientation dans l'espace, c'est super difficile. Enfin, c'est pas une évidence. C'est pas tout le monde ne va pas réussir.
Mais on a l'impression que ça disparaît un petit peu, les choses concrètes dans l'enseignement général. Oui. Avant, il y avait encore les cours de techno. Bon, il y en avait encore un petit
Alors,
peu de choses
là,
concrètes.
Là, on a encore un peu de technologie, mais ça, c'est à chaque réforme, on divise par deux le nombre d'heures de technologie. Alors
qu'en
techno, art plastique,
musique,
c'est pareil. Ouais. Musique, c'est pareil. Donc, effectivement, on dit qu'il faut se concentrer sur les fondamentaux français, maths, langue, mais tout ce qui est pratique, qu'on touche, qu'on manipule, c'est
ça permet à certains enfants de se raccrocher à quelque chose.
Et pour les enfants qui tiennent pas en place, au moins ils bougent un peu. On a besoin de s'étirer, on a besoin d'étirer les jambes, on a besoin de bouger. On peut pas. Même nous, on peut pas rester assis pendant 8 heures d'affilée. C'est
non,
pas possible.
C'est vrai, quand on regarde ce que font les enfants, on se dit, on pourrait même pas le refaire. Jean-Marc, merci beaucoup. Merci également à Maryse de nous avoir appelé. Jusqu'à 22h, vous aussi, vous avez la parole. J'aime pas l'école. C'est le sujet dont se dit tout. Si c'est votre histoire ou celle de votre enfant, venez nous rejoindre sur France Bleu.
Le soir, sur France Bleu, on se dit tout avec Vanessa Lambert.
L'année scolaire est bientôt terminée. Déjà, diront certains. Enfin, diront les autres. Si votre enfant a quelque peu aller en retrouvant le chemin de l'école. D'autres sont complètement tétanisés parce que l'école ne leur convient pas. Ils s'ennuient, ils décrochent, ils sont embêtés, ils n'osent pas demander, se laissent lentement glisser. On a décidé d'en parler ce soir sur France Bleu. Si vous avez été dégoûté de l'école, si c'est votre enfant qui vit très mal sa scolarité pour une ou autre de ces raisons, venez nous rejoindre au 0810 055 056 avec Maria Poblette qui nous accompagne, journaliste au magazine L'Étudiant. Et on va accueillir tout de suite Nathalie en région PACA. Bonsoir Nathalie.
Bonsoir.
Votre enfant, il n'a jamais, jamais aimé l'école?
Non, dès la maternelle, il s'accrochait aux grilles. Il se sauvait. J'habitais à la campagne, Il se sauvait, il sortait de la voiture. Une fois arrivé au rond-point, ben, il voyait tous ses petits camarades, donc il essuyait ses larmes dans les yeux.
Mais qu'est-ce qu'il vous disait ?
Il rentrait à l'école comme si de rien n'était.
Qu'est-ce qu'il vous disait ?
C'était difficile pour lui.
C'était quoi ses raisons, Nathalie ? Qu'est-ce qu'il vous disait au moment d'aller à l'école ?
Ben, qu'il ne voulait pas me quitter. Et qu'il s'enquiquinait à l'école.
Et ça, ça a duré longtemps jusqu'à ce que vous compreniez vraiment ce qui se passait ?
Oui, après, il est tombé sur une très bonne institutrice qui l'a amené en classe verte en troisième année de maternelle, c'est-à-dire il devait avoir 5 ans et demi. Mm-hmm. Elle était étonnée de son autonomie. Et bon, j'ai 4 enfants, donc c'était le troisième. Donc forcément, ils étaient pas obligés, mais ils savaient...
Il a appris à se débrouiller, oui.
Plein de choses. Mais l'apprentissage a toujours été difficile intellectuellement pour lui. Quoi. Voilà. Il pouvait grimper dans les arbres, il pouvait faire plein de choses, mais... L'apprentissage, c'était difficile pour lui.
Et les profs, les instits, en l'occurrence en primaire, qu'est-ce qu'ils vous disaient ? Ils vous encourageaient, ils vous aidaient, ou au contraire, ils vous disaient « Oh là là, c'est compliqué, Nathalie, avec votre fils ?»
Non. Mon fils a 18 ans maintenant. Non, l'apprentissage, de toute façon, on sait très bien l'apprentissage de la lecture et de l'écriture, si les enfants ne sont pas accompagnés par les parents, il y a quand même des devoirs, entre guillemets.
Oui. Puis, vous ne l'avez pas dit, mais vous vous êtes aperçu qu'il était dyslexique, votre fils ?
Oui, effectivement, à son entrée en sixième.
Mmh. Qui est-ce qui l'a compris ? Ça, c'est un prof ? Comment ça s'est passé ?
C'est moi.
C'est vous, toute seule ?
C'est moi, parce que, justement, l'école étant toujours compliquée, ayant des, on va dire, des bons résultats, c'est vrai que les enfants sont notés, ça dépend des méthodes, ça dépend des écoles. Mais il y avait toujours un sourire. Lui, il n'était pas un sourire. Hein. Et il avait, 14 de moyenne, 15 de moyenne en sixième. Quand il est rentré en sixième, avec des professeurs qui lui disaient « Tu vas te ramasser la gueule en sixième parce que, voilà,
c'est pas
assez bon. »
Sympa les profs.
C'est pas assez bon, quoi. C'est... Mmh. Non, excusez-moi, la gueule, c'est... non, tu vas te ramasser, mais ouais. On mettait la pression. Mon enfant est rentré en sixième, et entre les changements de professeur, changement de classe, changement d'horaire, changement d'instituteur aussi, parce qu'un instituteur qui protège un petit peu l'enfant, c'est
ouais.
Bien.
Mais, ça, on l'a pas dit. Nathalie, je vous coupe 2 secondes, mais on l'a pas dit encore. C'est un gros changement, dyslexique ou pas, hein, d'ailleurs, pour tous les enfants. Le passage en sixième, c'est vraiment un choc. On passe de l'enfance à l'adolescence d'un seul coup, d'un seul astite à plein de profs, d'un emploi du temps qui change tout le temps.
Ah oui, alors là, on commence à anticiper un petit peu. Il commence à y avoir des passerelles entre le CM2 et la sixième. Mais sinon, en effet, la marche est très, très haute. Et du jour au lendemain, il faut s'organiser tout seul avec son énorme cartable, avoir un cahier par matière, des livres. Les enfants, et c'est pas seulement les enfants dyslexiques ou dyspraxiques, se perdent dans les couloirs. C'est hyper, hyper stressant. C'est vraiment, c'est comme les psys disent que c'est comme un déménagement dans une vie, quoi. C'est vraiment, c'est très compliqué, et je pense qu'on commence à peine maintenant à prendre la mesure de ce bond-là, de cette marche qui est très, très haute, de la même manière que la marche est très haute entre la troisième et la seconde. Là, on commence à réfléchir à la question, mais il était temps, hein, vraiment.
Et Nathalie, comment votre fils a pu être accompagné avec sa dyslexie ? Est-ce qu'il y a eu un accompagnement spécifique pour lui ? Est-ce que vous avez pu travailler différemment ?
Lui, personne. Parce que après, attendez, j'ai une deuxième qui a suivi le même chemin. Enfin, qui suit le même chemin. Il a été accompagné comportementaliste, évidemment orthophoniste. Mais il a commencé à se mettre en côté bouffonnerie, c'est-à-dire... il y a beaucoup de personnes qui disaient moi j'étais maltraitée, lui pas le cas, il a fait l'inverse, il a commencé à rentrer dans la rébellion, dans la bouffonnerie, le marron de la classe, quoi.
Ouais, faire le clown pour pas qu'on l'embête.
Voilà. Pour sentir mieux peut-être, j'en sais rien. Je vous dis psychologue, et là on est rentré dans la marche infernale parce que voilà, on a essayé la méthode, on a essayé de le faire rentrer dans la méthode Montessori.
Oui.
ça n'a pas marché parce qu'il y avait en pleine année scolaire. On lui a allégé un petit peu le programme quatrième dans un centre forestier dans la région PACA pour qu'il ait moins de cours, justement, et comme il aime la nature, qu'il avait besoin de se défouler. Et puis, ça n'a pas marché. Et puis, il a 18 ans maintenant et ça ne marche jamais, quoi. Parce que
là, il est toujours scolarisé, Nathalie ?
Comment ?
Il est toujours scolarisé, votre fils ?
Non.
Non.
Non, non, non. Il a voulu rentrer chez les compagnons. Mmh. Il a réussi à rentrer chez... Il n'est pas idiot, hein. C'est... Il n'est pas... Mais voilà, maintenant on est arrivé à un stade, cet enfant, où il a 18 ans, l'école l'enquiquine, les apprentissages l'enquiquine. Il a désappris, en plus. Parce que ça, faut le savoir aussi, hein.
Alors après, on ne peut pas tout mettre non plus sur la dyslexie, Maria, parce que là, il y a peut-être des parents qui nous écoutent et qui disent « Oh là là, qu'est-ce qui va arriver à mon enfant ? C'est pas possible. » Il y a peut-être aussi autre chose. Hein.
Oui, oui, bien sûr. Il n'y a pas que la dyslexie. Et d'ailleurs, la dyslexie, moi, je connais des dyslexiques, des jeunes dyslexiques qui sont... en train de devenir un enseignant, instituteur de...
Ah oui, donc ça, c'est plutôt encourageant. Donc,
non, je pense que la dyslexie, alors, elle ne se guérit pas, hein, jamais la dyslexie, c'est vraiment un trouble qui ne se guérit pas, on compense, on arrive à compenser, on prend des chemins détournés pour obtenir quelque chose, mais on ne guérit, ça ne se soigne pas, en fait.
Mais alors, j'espère qu'on ne va pas déprimer Ludwig, qui est avec nous, parce que quand même...
Mais on compense et on s'en sort et on arrive ouais. à apprendre et on arrive, et justement, cet exemple de cette jeune enseignante qui est en charge d'une classe et qui commence à repérer des enfants dyslexiques tout de suite, quoi.
Ludwig, bonjour.
Bonjour.
T'es dans le Nord-Pas-de-Calais, ça va ? On t'a pas foutu le bourdon là en racontant tout ça, ça va ?
Non.
Bon, tu restes avec nous, Ludwig, tu vas nous raconter un petit peu ton parcours. T'as 10 ans aujourd'hui, t'aimes pas l'école et tu es dyslexique. On va justement y revenir. 0810 055 056, vous aussi, appelez-nous et racontez-nous pourquoi votre enfant n'aime pas l'école aujourd'hui, pourquoi ça coince, pourquoi c'est compliqué, pourquoi il refuse d'y aller, ou alors c'était votre histoire il y a de cela pas si longtemps encore. On se dit tout, vous donne la parole jusqu'à 22h comme chaque soir sur France Bleu.
Le soir sur France Bleu, on se dit tout avec Vanessa Lambert.
Si pour certains enfants, l'école, c'est les copains, les fous rires, les bonnes notes, pour d'autres, c'est mal de ventre, repli, angoisse, décrochage. J'aime pas l'école, c'est le sujet dont se dit tout ce soir avec vos appels et vos témoignages jusqu'à 22h au 0810 055 056. Si c'est votre histoire ou celle de votre enfant, si l'école a été pour vous ou pour eux un calvaire, venez en discuter avec nous, comme Ludwig qui est avec nous depuis le Nord-Pas-de-Calais. Rebonsoir Ludwig.
Bonsoir.
Toi, t'aimes pas l'école, Ludwig ?
Non.
Pourquoi t'aimes pas l'école ? Raconte-nous.
Bah parce qu'en fait, j'ai des dyslexies, je suis dyspraxie, dyscalculie, dysorthographique, dyslexique et dyscalculie. Donc c'est pour ça, on se moque un petit peu de moi à chaque fois.
Mais ils te disent quoi, les gars dans la classe ? Ou les filles, hein, d'ailleurs ?
Ils me disent en fait... Pourquoi ils me traitent tout le temps de oh d'un télo et tout ça, parce que ils disent que j'ai une madame avec moi qui me met
une assistante de vie scolaire, c'est ça, une AVS?
Oui.
Ouais.
Et ils me disent que en fait c'est pour me dire les réponses, mais j'essaie de leur faire comprendre que en fait c'est non, et mais ils croient toujours pas.
Et ta maîtresse, elle leur a pas expliqué pourquoi ?
On a essayé, mais j'ai même fait un diaporama, mais ça n'a pas marché.
Oh, t'as fait des super trucs en plus pour leur faire comprendre. Bon, ils sont peut-être un peu bêtes. Ils sont jaloux parce qu'ils n'ont pas une personne avec eux, contrairement à toi. C'est ça, Ludwig, hein, un peu ?
Oui, je pense.
Oh, bah oui, il faudra leur faire écouter l'émission, comme ça ils comprendront. En tout cas, t'es bien entourée, Ludwig, tu sais exactement ce qui se passe, tu comprends exactement tout ce qui t'arrive, et surtout, t'es bien pris en charge, j'ai l'impression.
Oui.
Ouais. Et ça, c'est important, Maria, il faut le dire. Hein, aujourd'hui, la dyslexie, les 10 ans en général, sont bien pris en charge à l'école.
Oui, ils sont de mieux en mieux pris en charge. Il y a des simplifications, hein, parce que il y a encore un ou deux ans, il fallait monter des tas de dossiers incroyables. Là, on est vraiment sur la simplification. C'est, on a pris ça en main. Et il faut savoir qu'il y a entre 1 à 2 enfants par classe dyslexiques. Donc c'est énorme. Du coup, il y a des simplifications. On a toujours un tiers de temps pour passer les examens, la possibilité d'avoir une AVS comme Ludwig. Et je crois que là, on commence à les connaître et on commence à vivre avec. Alors évidemment, c'est pas toujours facile, comme ce que nous dit Ludwig. Il faut l'entendre.
Pourtant, il a fait des efforts. Il a voulu faire un diaporama, expliquer à ses collègues de classe. Enfin, la démarche est très très bonne.
C'est vraiment génial. Et Ludwig, tu réessayes régulièrement de leur parler à tes camarades ou c'est une fois? Oui, et ils te disent, ils sont jaloux en fait.
Ouais, ils sont trop jaloux. C'est juste parce que j'ai une AVS avec moi.
Oui, ouais, c'est ça. Alors que toi, tu dictes tes réponses à l'AVS, hein.
Et c'est elle qui écrit pour toi.
Oui.
Ouais, c'est pas tout à fait la même chose. Hein. C'est bien d'expliquer la différence. Ludwig, tu sais ce que tu veux faire plus tard? T'as déjà une idée ou pas?
Un petit peu, oui.
Un petit peu, bah vas-y, dis-nous, profite.
J'ai envie d'être soit vétérinaire ou fermier.
Oh ouais, t'as envie de travailler dans la nature avec des animaux.
Oui.
En tout cas, c'est ça. Hein. Oui. T'es toujours là, Ludwig ?
Oui.
Ah oui, je crois que t'étais partie, mince alors. Ludwig, c'était vraiment chouette que tu puisses nous appeler. Moi, je pense que ça va pas durer longtemps, le fait que t'aimes pas l'école. Hein ?
Oui.
Ouais, je sens que il faut les remettre un petit peu à leur place. Tu peux leur dire que t'es passé à la radio pour parler justement de l'école.
Oui.
Tu peux même leur faire réécouter. francebleu.fr, on peut réécouter l'émission en podcast.
D'accord.
Ludwig, on t'embrasse très très fort. Merci vraiment d'avoir pris ton téléphone, d'avoir eu le courage aussi d'appeler pour expliquer un petit peu comment ça se passe pour toi. À très bientôt, Ludwig.
À très bientôt.
Au revoir. Alexandre est avec nous depuis le Morbihan. Bonsoir, Alexandre.
Bonsoir.
On va avoir une grosse bouffée d'oxygène grâce à vous, Alexandre, parce qu'on le dit depuis 20h, l'école, c'est pas toujours rigolo. Et c'est peut-être parce que l'école est pas forcément adaptée à notre époque.
Et oui, je pense que aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui existent et beaucoup de pédagogies alternatives et d'écoles différentes. Et en effet, on travaille, nous, avec notre association à l'ouverture d'une école qu'on appelle École démocratique.
Alors, ça veut dire quoi, démocratique ?
Alors, démocratique, ça regroupe beaucoup de choses. Donc, c'est déjà une école qui, pour la construire, il faut déconstruire tout le modèle existant. C'est-à-dire que c'est une école dans laquelle il n'y a pas de programme, il n'y a pas de cours, il n'y a pas d'emploi du temps et il n'y a pas de classe d'âge. Voilà.
C'est-à-dire qu'on arrive le matin, on ne sait pas trop ce qu'on va faire, en fait.
On arrive le matin, on fait ce qu'on a envie.
Oh, c'est bien, et ça. J'aime.
Voilà. Donc, en fait, on s'est basé sur un modèle d'école qui existe depuis une cinquantaine d'années aux États-Unis, qui a été fondé par deux professeurs d'université, donc ce qui s'appelle la Sudbury Valley School, et qui se base sur beaucoup de recherches en neurosciences, sur les rythmes d'apprentissage des enfants, sur les rythmes vraiment individuels, sur les différentes façons d'approcher en fait un apprentissage, et on voit que chaque individu a son propre mécanisme d'apprentissage.
Ouais, et faire un modèle pour tout le monde, ça marche pas. Est-ce qu'on a le droit, Alexandre, de faire ça aujourd'hui? Est-ce que vous êtes soutenu par l'éducation nationale ou finalement c'est un peu sur des chemins de traverse?
Eh ben, tout ce qui n'est pas interdit est autorisé, donc oui, on a le droit,
ouais.
Puisque c'est pas interdit. Après, on est soumis en fait à des contrôles de l'éducation nationale, tout comme les écoles sous contrat.
Oui, donc là, pardon, vous êtes hors contrat pour l'instant, alors?
C'est ça.
D'accord.
Oui. Donc on ne suit pas le programme de l'éducation nationale.
D'accord.
On suit uniquement le socle commun de compétences.
D'accord.
Voilà. Y a des gens intéressés déjà pour monter cette école? Parce que vous préparez l'ouverture de cette école démocratique.
Exactement, donc on prépare l'ouverture pour septembre 2017.
Ah oui, donc ça approche là, c'est la prochaine rentrée.
Exactement. Voilà, donc on travaille sur le projet depuis un an. Il faut savoir que la première école démocratique ouverte en France, elle a ouvert en 2014 à Dijon. Il y en a aujourd'hui une trentaine ouvertes et une centaine en projet.
Et il y a du monde derrière vous alors. En Bretagne, et ça y est, ça commence à se réveiller. Les parents ont envie de faire autrement pour leurs enfants.
Oui, on a une soixantaine d'enfants qui sont en demande pour intégrer l'école. Nous, dans nos capacités, on prévoit de démarrer avec une quarantaine d'enfants. Donc malheureusement, il y a beaucoup de demandes. Et alors ça correspond à des enfants qui viennent soit d'instruction en famille, soit qui sont en souffrance scolaire, en décrochage, puisque voilà, c'est le thème de votre émission de ce soir. Ouais. Il y a quand même en moyenne 140 000 décrochages scolaires par an dans l'éducation nationale. Donc il faut, je pense, plus d'écoles alternatives, on va dire, à ouvrir pour pouvoir satisfaire et accueillir ces enfants en souffrance.
Maria Paulette.
Alors, oui, il y a des expériences, hein, des initiatives comme le lycée autogéré de Paris ou toutes les écoles Freinet, Montessori, etc. En quoi vous êtes différent dans cette école de tout ce qui existe en pédagogie un peu alternative? Vous dites pas d'emploi du temps, pas de programme, mais l'enfant, en fait, il apprend ce qu'il a envie d'apprendre.
Exactement, et ouais. Il apprend à son rythme, en fait. Et pour vous donner, donc, ce qui peut faire peur dans tout ça, c'est de dire, mais l'enfant, potentiellement, n'apprendra jamais. Dans cette école sur laquelle on se base, où il y a pas de cours même proposés. Il faut savoir qu'elle existe depuis 50 ans. Il y a à peu près 150 élèves dans cette école par an. Et sur le recul qu'on a aujourd'hui, il y a 80% des élèves de cette école qui vont dans les plus grandes universités américaines.
Sans avoir suivi
un seul cours magistral.
Mais comme disait Maria, je vous repose la question, pourquoi pas Montessori par exemple, alors qu'on en parle de plus en plus et que ça commence à se structurer, que ça fait pas trop peur aux gens, enfin moins peur aux gens, pourquoi partir sur encore autre chose? Il y a quand même des similitudes entre vous et Montessori.
Non, parce qu'en fait, l'adulte, si vous voulez... Alors oui, on utilise, si vous voulez, du matériel Montessori dans les écoles démocratiques. Si l'enfant, pour son apprentissage, a besoin de ce matériel-là, il peut l'utiliser. Mais, pourquoi pas Montessori? Parce qu'en fait, aujourd'hui, en France, il y a beaucoup d'écoles primaires Montessori, mais très peu de collèges et quasiment pas de lycées.
Oui, c'est souvent donc, pour l'apprentissage des petits. Hein.
C'est ça. Donc nous, aujourd'hui, l'école qu'on souhaite monter, elle va accueillir des enfants de 3 à 19 ans. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de rupture entre le primaire et le secondaire. On assure une continuité, en fait, dans la pédagogie, dans la démarche. Donc c'est ce qui vraiment nous a intéressé. La posture de l'adulte ne se pose pas en tant que sachant vis-à-vis de l'enfant. Il est au même niveau que l'enfant. Et le terme démocratique, c'est que la voix de l'enfant a autant de pouvoir que la voix de l'adulte au sein de l'école. C'est-à-dire que l'enfant peut autant décider du fonctionnement de l'école que l'adulte.
Maria Paublette, vous qui êtes journaliste à L'Étudiant, vous avez fait beaucoup de sujets chez L'Étudiant sur ces pédagogies alternatives. On en parle quand même de plus en plus.
On en parle de plus en plus et c'est vraiment très intéressant parce qu'il y a de l'innovation, il y a des envies, il y a des idées, il y a des tas de personnes qui ont envie d'inventer des choses et que ce soit dans le privé ou dans le public. Hein, il y a aussi, je tiens à le dire, dans le public, il y a aussi pas mal d'inventions et d'innovations. Et je pense qu'on ne peut pas échapper à cela et il faut vraiment se coltiner, quoi, chercher des idées. Et moi je trouve que...
Et l'éducation nationale ne fait pas opposition à ça?
L'éducation nationale n'est pas si fermée que cela. Il y a dans l'éducation nationale il y a des pôles innovants lycéens, il y a dans les collèges des mises en place de structures différentes. Mais en effet, on ne peut pas sur combien de millions d'élèves, on ne peut pas tous les mettre dans l'innovation, mais il y a des choses qui se font et je trouve que c'est vraiment très très intéressant. On invente là.
Merci beaucoup Alexandre d'être venu nous parler de l'ouverture donc de cette école démocratique pour la rentrée prochaine dans le Morbihan. On aura l'occasion, j'espère, de prendre de vos nouvelles et de voir comment les choses avancent. À bientôt Alexandre. Je n'aime pas l'école, c'est encore pour quelques minutes avec vous sur France Bleu. Vos témoignages, vos souvenirs, vos constats peut-être aujourd'hui avec votre enfant qui n'aime pas l'école. Pour quelles raisons? Qu'est-ce qu'il vous dit? Comment vous faites pour gérer le matin au moment où il faut partir et il vous dit « Maman, j'ai mal à la tête, j'ai envie de vomir, papa, je veux plus aller à l'école ». Comment vous faites, vous, concrètement? 0810 055 056 pour en parler jusqu'à 22h.
Le soir sur France Bleu, on se dit tout.
Dans un mois et demi, l'école est finie. Chouette pour certains, ceux qui n'aiment pas l'école, et c'est vraiment à eux que s'adresse cette émission ce soir. On vous écoute jusqu'à 22h en compagnie de Maria Poblette, journaliste au magazine L'Étudiant et auteur du livre Le guide psycho pour une scolarité réussie aux éditions de L'Étudiant. Et on va accueillir tout de suite Aline dans le Languedoc-Roussillon. Bonsoir Aline.
Oui, bonsoir à tous.
Alors vous, vous faites l'école à la maison à vos enfants et ça s'explique aussi parce que vous, vous n'avez jamais aimé ça l'école.
Alors ça, c'est la raison effectivement secondaire. La raison principale est que mon jeune fils de 5 ans et demi a rejeté une école Montessori et d'abord une petite école parentale déjà dès l'âge de 2 ans et demi. Il a rejeté les deux en bloc 3 mois pour la première et après 5 mois d'essai pour la deuxième. Donc il est vrai qu'on a été obligé de penser à des alternatives en étant très positif parce que c'était des rejets qui étaient malgré tout très clairs dans l'esprit de mon fils.
Qu'est-ce qu'il vous disait votre fils ? C'était quoi les raisons, si petit?
Il s'ennuyait pour la première école, l'école parentale, et sur l'école Montessori, les activités, le fait que c'était un apprentissage par le biais d'activités ne lui convenait pas. Et c'est vrai qu'il nous l'a assez clairement fait comprendre très tôt. Donc on s'est retrouvés face à ce dilemme. Ça a été beaucoup plus facile pour moi, parce que j'avais moi-même arrêté l'école très tôt. Mais c'est vrai que c'est vraiment un message d'espoir, parce que pour moi, c'est pas du tout une difficulté de ne pas aimer l'école. Ça se gère d'une manière très très positive.
Faut s'organiser différemment.
Faut s'organiser différemment, avoir effectivement un certain nombre de, je dirais, de privilèges, mais c'est vrai que c'est quelque chose de merveilleux qui nous permet de nous préparer très très bien pour les écoles secondaires et tout ce qui va avec.
Alors comment vous faites l'école à vos enfants? C'est intéressant aussi de se dire, c'est vous qui prenez en charge l'éducation, le programme. Vous êtes aidée pour ça, Aline, ou c'est vraiment vous qui gérez toute seule?
Oui, alors c'est-à-dire qu'en ce moment, effectivement, on a fait une année, en fait l'inspection académique n'a pas souhaité faire rentrer mon fils sur le CNED CP l'année dernière. Donc on a pris nous-mêmes, on a préparé nous-mêmes le programme avec des supports pédagogiques qui existent. Mon fils avait fait l'école maternelle, donc il y a un an, qu'il avait bouclé un petit peu plus rapidement au CNED. Et puis là, on a fait, je dirais, une année de CP par rapport au programme. Et donc, l'année prochaine, je vais voir pour faire une équivalence avec l'inspection académique. Sinon, je me redébrouillerai toute seule. On va voir un petit peu comment ça va se passer, mais j'ai bon espoir qu'il puisse intégrer le CE1 dès la rentrée prochaine.
Maria Poblette, justement, dans le dernier numéro de L'Étudiant, vous consacrez un dossier sur ceux qui étudient à la maison. Alors là, c'est plutôt sur après un harcèlement scolaire dans le cas de votre reportage.
Oui, c'est une jeune fille qui a été harcelée, qui était différente, qui avait des problèmes relationnels et qui a terminé complètement phobique, phobie scolaire très importante. Et du coup, comme sa maman avait étudié à distance parce qu'elle vivait à l'étranger au CNED, le centre d'enseignement à distance. Là, elle suit des cours à distance avec le CNED. Elle est à la maison et elle est étonnante, quoi. Elle est étonnante parce qu'elle réussit. Elle n'a plus ce poids des autres, ce regard des autres, cette difficulté.
Ce côté de compétition.
Ce n'était pas possible. Et c'est la compétition. Donc là, elle travaille à son rythme. Elle me raconte qu'elle se met, elle se prépare, elle se maquille comme si elle allait sortir au lycée, comme toutes les gamines. Elle se prépare, elle se maquille, elle se met à son bureau. Elle travaille entre 2 et 3 heures le matin, super efficacement, avec une concentration importante. Elle fait ses devoirs, elle renvoie ses devoirs. Et l'après-midi, Elle fait de la musique, elle fait de la danse, elle fait de la peinture, elle fait des tas de choses qui lui plaisent. Et en fin de journée, elle retourne un petit peu à ses leçons et elle revoit ses cours. Et franchement, elle est hyper épanouie, elle s'en sort très très bien et elle est heureuse, quoi.
Ouais. Et vous, Aline, c'est un peu pareil, l'emploi du temps, c'est un peu à la carte ou c'est quelque chose qui est bien réglé chez vous, de telle heure à telle heure, on fait des devoirs, on apprend, ou c'est selon un peu l'envie de vos enfants?
C'est relativement réglé. En fait, il y a 3/4 d'heure de cours par jour. C'est en ça que je souhaitais témoigner ce soir pour dire que vraiment, je n'aime pas l'école. N'est pas du tout, je dirais, dramatique. Il y a 3/4 d'heure de cours qui sont gérés pour mon grand, une demi-heure pour le tout petit. Et en 3/4 d'heure de cours, aujourd'hui, mon fils, qui est loin d'être un surdoué, il sait lire couramment à 5 ans et demi, quoi. Mmh. Il lit couramment, il sait faire des additions, des soustractions, il a un bon niveau, correct, et tout ça en 3/4 d'heure par jour, et effectivement, il fait énormément d'activités à côté, sans être fatigué, c'est un enfant qui est calme, et je pense que c'est pas mon enfant qui est calme, c'est sa situation de vie, et c'est vrai qu'il fait plusieurs instruments de musique, du sport, et je crois que c'est
des modèles qui existent ailleurs, hein, déjà, de travailler...
C'est des modèles qui existent à l'étranger. Ouais. Et je n'aime pas l'école en France, ne veut pas dire qu'on n'aime pas l'école à l'étranger. Et tout ça, effectivement, pour moi, j'avais entendu plusieurs témoignages ce soir, et c'est ça qui m'a donné envie de témoigner.
Mais vous avez bien fait, Aline, c'est important.
J'ai vraiment porté quelque chose d'espoir, de très bien et de très positif. Par contre, pour les parents, il faut reconnaître que c'est beaucoup plus compliqué. Il faut vraiment reprendre un rôle... qui nous est souvent un petit peu qu'on délaisse. Mmh. Mais c'est vrai que, hormis le côté où les parents doivent prendre un très très lourd, je dirais un chemin très difficile, pour eux un choix qui est plus compliqué, pour les enfants, je pense que c'est porteur d'espoir dans plein de cas, sans avoir une difficulté particulière, sans se mettre dans la notion de dire nous sommes en difficulté, où on a un drame à gérer, où il y a une rupture familiale. Non.
Merci Aline pour votre témoignage. C'est important de montrer et de prouver que ça peut marcher, l'école à la maison. On va enchaîner avec Gabriel qui est dans la Drôme. Bonsoir Gabriel.
Bonsoir Vanessa.
Alors vous avez jamais aimé l'école, hein, il faut le dire. À partir de 6 ans déjà, vous en aviez marre.
Moi j'ai commencé à 6 ans et ça m'a jamais plu. J'apprenais ce que je voulais, mais je préférais travailler de mes mains. Faire des petits objets qui étaient exposés à l'école et toujours bricoler. Ce que je fais toujours d'ailleurs. Et je suis allé à l'école jusqu'à 14 ans, j'ai passé mon CAP, je suis parti en apprentissage. À 14 ans et 15 jours, je mettais les bleus pour limer de la tôle pendant 9 heures pour apprendre le métier d'ajusteur. Je n'ai jamais regretté et je trouve dommage qu'on ait supprimé les écoles d'apprentissage parce que c'était formidable. Les gens, on apprenait un métier, vraiment, on était des vrais professionnels qui sont d'ailleurs recherchés actuellement, toujours. Et j'ai toujours eu du travail et j'ai jamais regretté. Et je comprends très bien les jeunes qui s'ennuient à l'école.
Mmh. On peut le sentir très vite, hein, un enfant, on arrive à... Souvent on se dit, oh mais il est trop jeune, il sait pas encore ce qu'il veut faire. Il y a des enfants, on sait très vite ce qu'ils veulent faire. Pour le cas de Gabriel, il fallait faire quelque chose de ses mains, par
oui,
exemple.
Oui, on peut savoir très vite s'il est plutôt manuel ou pas. Mais j'aimerais dire aussi que aujourd'hui, on sait très bien qu'on va changer de métier plusieurs fois. C'est terminé d'avoir un seul métier, on apprend et on est dans l'orientation stricto sensu. Et ça y est, c'est fini, on a un CAP ou un bac pro ou un diplôme de tel ou tel métier. Aujourd'hui, on le sait, et ça vraiment, on commence à travailler là-dessus dans les centres d'orientation. On va changer de métier, donc il faut être souple. Donc on peut changer d'idée et changer d'avis aussi dans la matière.
Quoi. Mais l'apprentissage, Gabriel disait, je suis déçue qu'on ait fermé les écoles d'apprentissage. Il y a encore l'apprentissage.
Ah ouais, non, mais vraiment, il y a quand même. On peut apprendre un métier, des métiers très très vite et de nombreux métiers et on peut démarrer tôt, hein,
Et puis surtout, il y a des nouveaux métiers aussi. On en parle, j'en profite, hein, dans le dernier numéro de l'étudiant, par exemple, sur l'animation, les jeux vidéo. Un enfant qui est attiré par ça. Aujourd'hui, il y a des formations pour l'emmener dans ces voies-là, des voies qui n'existaient pas forcément il y a 10, 15, 20 ans.
Bien sûr, on se plaint des petits garçons qui sont devant leur ordinateur. Mais alors justement, Tu es devant ton ordinateur, qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce que tu peux inventer? Eh ben, on y va, quoi. Et on va travailler sur l'informatique. Et c'est, voilà, ils ont des ressources.
Ouais. Et il y a plein de métiers qui n'existent pas encore. Et on plein forme de même des jeunes à des métiers futurs aujourd'hui qui n'existent pas. C'est assez, assez génial. Gabriel, merci d'être venu témoigner ce soir. Vous qui n'aimiez pas l'école et qui avez trouvé votre voie très très vite. Hein. À partir de 6 ans, vous vouliez fabriquer des objets. Ça a été chose faite et ça l'est encore aujourd'hui. À bientôt, Gabriel. Merci pour votre fidélité sur France Bleu.